Alors, comme promis, nous sommes dans un moment de témoignage et nous recevons des invités ce matin. On va commencer donc à ma gauche. Nous recevons notre sœur Monique qui va rapprocher le micro. Monique, comment vas-tu?
Ah ben, ça va bien avec la grâce de Dieu.
Alors Monique, tu nous viens d'où ça? Enfin, vous êtes sorti loin, mais dis-nous que tu es sorti.
Oui, je viens du Lamentin.
Est-ce que tu connais le chant de Paul William? Côté au sorti,
oui.
Côté au calé. C'est encore fait ici, mais on ne va pas dire sans Jésus, puisqu'on est Jésus.
Amen.
Alors Monique, brièvement, tu viens du Lamentin?
Oui, je viens du Lamentin. Oui.
Belle commune.
Superbe.
Je sais que c'est Samo qui t'aimait de Lamentin, mais il parle encore.
Ah non. Il juste mort.
D'accord. Tu peux augmenter, fais monter ton micro comme ça, le petit bouton. Tu dis, non, sinon le rapprocher, pas de problème. Alors, tu me disais qu'il est mort, maintenant il...
Oui, maintenant nous avons M. Zobda.
Oui. Un grand bonjour, M. Zobda. Alors, Lamentin, c'est une commune très... très
passante.
Centre.
Oui.
À seconde ville de la Martinique.
Oh oui.
Zobda, bon l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises au Lamentin.
Je ne sais pas.
Il y a beaucoup d'entreprises au Lamentin.
Et il y a énormément, nous avons des zones.
Des zones industrielles.
Des zones industrielles, et oui, Lamentin, oui, elle est, je sais pas, on dit béni.
Les impôts ne sont pas trop élevés.
Un petit peu, oui, quand même.
D'accord.
Oui, c'est, oui.
C'est aussi, on entend beaucoup de parler de violence à Fort-de-France. Est-ce que Lamentin est concernée par cela?
C'est très concerné. Nous sommes le centre et puis nous sommes une plaque tournante. Nous avons l'aéroport, etc. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'agressions au Lamentin. D'être tués au Lamentin.
Et tu habites tout près de l'aéroport, me semble-t-il.
Ah oui, pas loin. J'ai l'hypermarché en face. Je suis bien. J'ai tout. Hein. J'ai les hypermarchés, tout, la pharmacie et même là où on tire les gens. Comment ça s'appelle?
Le cimetière
est derrière moi. Donc, je suis bien au Lamentin.
D'accord. Merci Monique. Nous recevons aussi Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie, bien dans le micro. Ah, ne crains pas, le micro ne mord pas. Bonjour Anne-Marie. Notre petit technicien va augmenter son micro. Le micro d'Anne-Marie baisse un peu, vas-y.
Bonjour Pasteur Subon.
Ça va bien?
Bien, merci, avec la grâce de Dieu.
Et toi, tu nous viens d'où ça?
Du Lamentin.
À Lamentin, on sait.
De le quartier.
Je les appelle les trois mousquetaires. Elles sont toujours ensemble. Alors, quel quartier de Lamentin?
Duchesne.
D'accord. Donc, sinon, toi aussi, tu trouves que Lamentin est une belle commune?
Oui, très bonne. Oui.
Très belle commune.
Très belle commune.
Il se passe pas mal de bonnes choses de Lamentin.
Oui, assez quand même.
D'accord. Merci beaucoup, Anne-Marie. Tu restes avec nous, hein?
Oui, tout à fait.
Dans tes trois mousquetaires. D'accord. Et puis, au milieu, il y a notre sœur.
Simone,
arrange bien ton micro, Simone. Alors, notre soeur Simone, qui nous vient d'où ça?
De Ducos.
Ducos, c'est à côté.
Dans le sud. Du Lamentin, voilà.
Oui, tu vas bien marcher ton micro, voilà. Non, en haut, voilà, bien. Il va baisser ton retour. Voilà, alors tu nous viens de Ducos, parle-nous un peu de Ducos. Je sais, il me semble que vous avez une mairesse, il me semble.
Oui, tout à fait.
D'accord,
Madame fait. Nelly Nella.
Nelly Nella. D'accord, on la salue, hein?
Oui, tout à fait.
Elle est bien comme mère?
Ah oui, quand même, oui.
D'accord.
Parce qu'on voit l'évolution, on voit tout ce qu'elle met en place, oui.
Ah, oui. Ouais. Elle est très jeune en plus.
Très jeune. Ah. À peu près l'âge de ma première fille.
Ah ouais. C'est une prophétie que tu nous donnes là ou bien quelque
chose? Je ne sais pas. Le Seigneur sait.
Dieu sait. En tout cas, merci d'être là toutes les trois ici à Basse-Pointe en ce jour parce que nous sommes là pour donner gloire à Dieu.
Amen.
Et j'aime beaucoup les témoignages et tu vas témoigner aujourd'hui, ma sœur Simone, notre sœur Monique et Anne-Marie te connaissent très bien.
Oui.
Elles vont t'épauler dans ce témoignage et puis leur tour viendra, le jour viendra où leur tour viendra ici et tu seras
aussi
à leur côté pour les aider. En bon entendeur, salut. Donc Simone, parle-nous un peu de ton enfance. Tu as grandi à Ducos, comme tu dis.
Ah, oui, j'ai grandi à Ducos.
Tu peux continuer.
Une famille recomposée, assez nombreuse.
Oui.
Donc, nous sommes 6 enfants et il y a eu les 8 autres enfants de mon beau-père qui est arrivé. Donc, on a été une très, très grande famille.
D'accord. Et une famille de combien d'enfants, tu as dit?
En tout, on devait être 6 plus 8.
6 plus 14.
Oui, mais les 14 n'étaient pas au domicile total. Hein. Il y avait les 4 derniers de mon beau-père qui étaient là.
C'est ça me radiait, voilà, parce que 14
ça faisait,
dans un cahier,
oui, ça faisait 10
c'est
quand même.
Qu'il faut.
10, ça faisait 10 quand même personnes. Et puis régulièrement, ben, les 4 plus grands venaient à la maison.
Et d'accord. Combien de frères, combien de sœurs?
Alors, je suis la seule fille.
Tu es la seule fille sur 14 personnes?
Non.
Ah bon, bon.
Seule fille du côté de ma maman et 5 frères.
Tu as 5 frères.
Voilà. Okay. Et puis, la famille recomposée, ben, on était en tout 4 filles.
4 filles.
Voilà.
Comment ça se passe entre vous?
Ben, comme toutes les grandes familles, pas évident. Hein.
Pas évident.
Il y a des caractères différents, il y a même des souffrances aussi. Parce que même avec nos frères, mes frères, ce n'était pas toujours évident. Donc, oui.
D'accord. Et il n'y avait pas cette guerre entre vous, la jalousie, les préférences. Tu as connu ça, les préférences? Parce que les parents, c'est toujours comme ça. On dit ça, mais il y a toujours un qu'on préfère par rapport aux autres.
J'ai vécu ça. Et ça engendre beaucoup de difficultés par la suite. Hein. Hein, c'était on préférait plus les garçons que les filles.
Ah bon?
Par exemple, voilà.
Mais ton papa,
Alors, mon papa est parti à la maison, j'avais 6 ans. Quand il a divorcé de maman,
d'accord.
J'avais 6 ans et à 7 ans, ben, vers 7-8 ans, mon beau-père est arrivé à la maison. Donc, on s'est retrouvés.
Avec un beau-père?
Avec un beau-père.
D'accord.
Un beau-père qui était quand même assez...
Spécial?
Spécial.
D'accord.
Tyrannique, parfois.
Et ta maman t'a dit quoi pour te présenter ton beau-père? Voici.
Ah là, je ne me souviens pas.
T'avais 6 ans.
J'avais 6 ans. Il y avait déjà des blessures avant.
Mm-hmm.
Parce que voir papa qui part, on ne comprend pas pourquoi le papa part.
Oui, oui.
Donc, le beau-père est arrivé. Mais c'est comme si qu'on a été... Maman nous a imposé...
Un beau-père.
Un beau-père, voilà.
Ça n'a pas été facile.
Puisqu'à l'époque, les conversations, comme aujourd'hui, tout le monde parle à tout le monde, mais à l'époque, c'était fermé.
Donc, ne parlait pas n'importe comment à maman.
Ah non, surtout pas.
Ah ouais.
Même le créole, on n'avait pas droit à...
Fallait même pas
parler créole. Quand on jouait, entre nous, maman était au marché, on parlait le créole, mais quand on était dans la présence de maman, ben, c'était plus le français que le créole. Hein.
D'accord.
On n'avait même pas droit à jouer au domino, quelque chose qu'on aime beaucoup dans la famille. Mais même ça, on était quand même... était un peu privé de ça. Tant que maman et papa n'étaient pas là, le beau-père. Donc on pouvait s'amuser, mais après une fois...
Dès qu'ils arrivaient... Et dans certaines maisons, certaines familles, c'est la maman qui est cravache. Alors chez toi, c'était qui était cravache? C'est ton beau-père ou ta maman?
Alors, je n'ai pas subi de violence au niveau des coups. Je n'ai pas connu que maman nous a donné des coups à outrance. Je n'ai pas connu ça.
Oui, oui.
Mais les propos, les paroles,
ah ouais.
Elles faisaient beaucoup plus de mal que
les coups. Des paroles méchantes.
Ah oui, puisque ces paroles-là, ça a façonné toute une vie.
Ah.
Donc, des fois, je me dis... Je me disais, puisque le Seigneur a restauré, mais j'aurais peut-être préféré prendre des coups.
Ah bon?
Que oui.
Ça veut dire qu'il y a des propos qu'on peut tenir à quelqu'un, ces propos peuvent être ravageurs.
Ah oui.
Ah ouais.
Parce que les paroles laissent mais vraiment des cicatrices, des plaies dans l'âme même, parce que ça descend. Dans le subconscient, ça descend en nous. Et tandis que les coups, ben, c'est la chair qui prend. Et puis, c'est fini.
Ouais. Donc, mais là, c'était des paroles.
C'était les paroles.
D'accord. Et tu as grandi vers 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, à 18 ans, vers les 18 ans...
Quand tu es devenue majeure.
Quand je suis devenue majeure, alors, j'étais toujours chez maman. J'ai eu ma première fille.
Oui.
Qui a...
À 18 ans?
À 18 ans,
oui. Ta maman t'a dit quoi lorsque tu es arrivé avec ton gros ventre? Tu as dit, maman, j'ai une nouvelle à t'apprendre.
Alors, je ne crois pas que je lui ai dit.
Elle a vu?
Ben, elle a vu. À l'époque, on n'avait même pas besoin de dire. Ben, les parents, en plus, il y avait ma grand-mère, voient déjà qu'il y a une formation, il y a quelque chose.
Ah, ouais.
Donc, on m'accepte avec ma grossesse.
Ouais.
Ma fille a grandi. J'étais plus chez ma grand-mère à cette époque que chez ma maman.
D'accord.
Ma grand-mère, c'était ma maman.
On a l'impression, en t'écoutant, que la relation avec ta mère n'était pas au beau fixe.
Non.
Non. Monique Dinouba, pardon. Si Monique Dinouba l'a renié, parce que je sens qu'il y a un truc entre ta mère et toi. Ta mère, qui je rappelle, n'est plus de ce monde.
Ma mère n'est plus de ce monde. C'était compliqué avec ma maman parce qu'elle ne voulait pas de fille. Oui. Elle a toujours dit qu'elle ne voulait pas de fille. Donc c'était ses fils.
Oui.
Donc j'étais livrée à moi-même depuis toute petite, depuis l'âge de 5 ans. Hein. J'avais pas trop le choix.
Ah oui.
Et puis j'ai vécu quand même des choses lourdes, j'ai vécu quand même de l'abus sexuel. Donc
l'inceste quoi. On dit pas inceste quand c'est.
Alors.
Qu'est-ce qu'on dit, abus sexuel ou inceste?
Il y avait abus, il y avait inceste, puisque la première personne qui m'a touchée, c'était un oncle. Là, c'était de l'inceste. Mais après, c'était le beau-père. Donc ce n'est plus l'inceste, c'est de l'abus.
D'accord. Tiens, à propos, j'ai reçu une dame ici, que tu la connais. Elle a été victime d'abus sexuels de la part de son oncle depuis l'âge de 5 ans, elle m'a dit.
Oui, moi j'avais 5 ans.
Elle, intérieurement, elle était détruite, brisée intérieurement.
Oui. C'est vraiment la destruction.
Oui.
Parce qu'on n'a plus. C'est comme si on a volé ton âme.
Oui.
Donc tu n'as pas de repère, tu n'es pas enfant. Tu n'es plus considéré comme un enfant, tu es considéré comme un adulte.
Oui, avant l'heure.
Avant l'heure, et tu ne peux pas dire ce qui t'arrive, mais tu subis, et toi-même tu ne comprends pas. Donc, par rapport à ça, mon âme a refoulé ces choses-là pendant des années et des années. Mais vraiment de longues années, j'étais déjà... j'avais déjà eu ma fille.
Ah oui.
Parce que c'est quand je me suis donnée au Seigneur que cette partie de ma vie est remontée à la surface.
T'inquiète pas, on va revenir. Voilà. Mais là où je voulais revenir avec toi, c'est que est-ce que en tant que petite fille, tu n'as parlé autour de toi? Est-ce qu'on t'a cru? C'est tout le problème. Hein?
Ah non, je n'en ai pas parlé parce que je crois que mon subconscient ou mon âme, je ne sais pas, ça s'est enfermé, ça s'est enfui tout de suite. Donc j'avais pas cette notion. Mais ce n'est que quand après il y a eu les abus.
Oui.
Là je savais qu'il y avait quelque chose de mauvais.
Oui.
Et quand je l'ai dit vers l'âge de 12 ans.
Tu as commencé à parler?
J'ai commencé à parler pour une enseignante. Et elle m'a dit non, il faut laisser ça là que c'est, il faut rien dire. Donc, je l'ai gardé. Et après, quand j'ai ouvert cette page...
L'enseignante t'a dit, il faut laisser ça.
Ah ouais.
Il faut rien dire.
Voilà.
Tu avais quel âge quand tu as parlé de ça?
J'avais à peu près...
Si tu te rappelles, hein, bien
sûr. Oui, à peu près 9 ans. À peu près 9 ans.
Oui.
Et il ne fallait pas le dire. Parce que maman, ça ne faisait pas longtemps qu'elle avait divorcé. Elle avait eu beaucoup de souffrances.
Oui.
Maman aussi, sa vie était... aussi
puisque
elle a été elle a quand même été battue par mon papa.
Oui.
Et donc mon papa avait plein de maîtresses à côté,
à droite et à gauche.
Donc quand elle à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'argent, il fallait qu'elle aille faire les courses, prendre du crédit dans la petite supérette.
C'est souvent comme
puis,
ça hein?
Voilà. Et puis elle fait le repas pour que papa puisse partir au travail. Et puis c'était pour aller manger avec d'autres femmes. Et quand elle allait chercher l'argent de ce que papa avait fait, eh bien non, mais on ne l'a pas vu, il n'est pas venu, il n'a pas travaillé.
Ah oui. D'accord. Donc, alors, tu es élevée seule fille?
Seule fille.
Et ta maman?
Oui.
Ta maman, tu n'es pas désirée? On aurait pu penser que comme tu es la seule fille, tu serais bien, tu serais gâtée. Ce n'est pas le cas.
Non.
Elle préfère les garçons.
Oui.
Bon, tu as connu l'abus sexuel de ton oncle et de ton beau-père. Et quand tu as pas, je résume, hein, quand tu parles à ta maîtresse, elle te dit il faut pas toucher à ça.
Ouais.
Il arrive souvent aussi que les victimes d'abus sexuels, quand leur bourreau, hein, on va appeler ça comme ça, leur disent faut pas en parler, c'est notre petit secret entre toi et moi. Est-ce que ça a été le cas pour toi?
Alors ça n'a pas été le cas, mais il fallait pas dire il allait me marier. avec l'un de ses enfants.
D'accord.
Donc, il fallait absolument rien dire.
Mm-hmm.
Donc, voilà.
Il fallait rien dire. Donc, on fait une pause musicale? Oui, on fait une pause musicale. Mon technicien va se rendre... Il est tout petit, mon technicien. Il a que 9 ans et demi. Alors, il est tout petit. À peine si on le voit derrière la table de mixage. On va faire une pause musicale, juste pour que Simone puisse nous revenir en pleine forme. Dieu vous bénisse. Alors, beaucoup de difficultés dans ton enfance. Et ça n'a pas toujours été. En tant que petite fille, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Tu deviens adulte avant l'heure, tout ça. Est-ce que tu as des copines avec qui tu en parles?
Non.
Tu n'en parles à personne?
Non, je n'en parlais à personne parce que j'étais quand même quelqu'un de très réservé. J'étais souvent dans mon petit coin. Si bien qu'on pensait qu'à l'école que j'étais quelqu'un de folle.
Ah oui?
Et mes deux amies que j'avais, c'est deux filles qui étaient en handicap.
Ah oui?
Ouais.
D'accord. Mais tu n'avais pas une confidente, un confident non. avec qui parler? Personne?
Non.
D'accord.
Non, et puis dans la famille, comme on était déjà nombreux, je pense que le fait qu'on était déjà nombreux, on avait déjà tout ce petit cocon autour. Et à l'école, c'était aller à l'école, revenir. Et puis dans ma tête, comme j'étais tellement malheureuse, donc je me retrouvais souvent dans mon coin, toute seule.
D'accord. Et quand on a vécu ce qu'on a vécu, quel regard est-ce qu'on porte sur les garçons? Juste pour t'aider un peu.
Un regard très méchant.
Très méchant?
Ah oui.
C'est-à-dire?
Très méchant.
Tu veux faire souffrir les garçons?
Ah oui.
Oui.
J'avais pas de... Pour moi, un garçon, même un homme, c'était rien, quoi.
C'était rien du tout.
C'était rien, c'était...
Tu l'es aujourd'hui. Je rappelle que tu es très belle aujourd'hui. Mais je pense que quand tu étais jeune, tu étais encore plus belle.
J'étais belle, oui.
D'accord. Alors, ça, les sites sous la route, les oui. chéris doudous sous la route, ça fusait de partout.
Ah oui.
Et comment tu gérais ça?
C'était difficile. Parce que le fait que j'étais déjà déchirée à l'intérieur, c'était mon mode de vie.
Oui.
J'avais plusieurs partenaires.
Oui.
Donc, je n'étais pas stable.
Oui.
Aujourd'hui, tu es avec cette personne et puis, pour X raison.
Penses que ça vient de l'enfance, de tout ce que tu as vécu?
Ah oui. Puisque je n'ai pas connu le bien, j'ai connu que le mal.
D'accord.
Donc le mal ne peut engendrer que du mal.
Oui. Donc alors quelque part, tu essayes de faire subir aux personnes, aux amis que tu rencontrais, aux copains, on va dire ça comme ça. Ce qu'on t'a fait à toi, il y avait une espèce de sentiment de vengeance intérieure.
Ah oui, oui.
Est-ce que tu te plaisais à voir souffrir les copains que tu avais?
Je ne sais pas.
Ou les partenaires? Est-ce que tu prenais un certain plaisir à les voir souffrir?
Je ne pense pas. C'est une question que je ne me posais pas.
Ça c'est pour Bamille ou quoi?
Donc, nous, on est là, c'est comme ça. C'est dent pour dent. Et puis voilà, quoi.
Donc,
je ne m'arrêtais pas à... Si, même si la personne me disait qu'il m'aimait, pour moi, ce n'était pas vrai.
Ah ouais.
Donc, je ne me permettais pas d'aimer.
Tu n'avais pas le droit d'aimer?
Non.
D'accord. Ça t'était interdit?
C'était interdit. J'ai aimé quelqu'un, j'avais 14 ans, et quand cette personne est partie de ma vie, je suis redescendue dans le même système.
Je
sais pas, non, parce que si lui il est parti, si lui il a fait ça,
oui,
voilà, il ne faut pas aimer.
On n'a pas le droit d'aimer.
Voilà, il faut juste vivre, faire sa vie.
Donc, toujours la même chose, j'ai interrogé une dame, et elle me disait qu'elle estimait qu'elle ne méritait pas une bonne personne. Donc, elle était constamment attirée vers les...
Oui.
Des junkies sans mépriser personne. Hein.
Oui, tout à fait.
Parce qu'elle estimait que c'est ce qu'elle méritait.
Oui.
Elle s'était prise en dégoût intérieur.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Et pendant longtemps, mais très longtemps, c'était... même si quelqu'un de posé, de bien serait venu, je ne voulais pas cette personne.
Ah oui? La personne était trop bien pour toi?
je sais pas si je ressentais que la personne était trop bien, mais c'était surtout que cette personne, qu'est-ce qu'il va apporter? Et que je n'étais pas prête à accepter.
Tu n'étais pas prête à mener une vie normale avec quelqu'un?
Non. Parce que pour moi, c'était ma vie qui était comme ça.
C'était partenaire sur partenaire.
Voilà.
D'accord. Et ça a duré...
Ah, des années.
Des années.
Des années. Des années.
Et il y a eu des enfants qui sont arrivés entre-temps.
Oui. Mmh. Mes trois premiers enfants sont de pères différents. Mmh. Donc, ce n'est que quand je suis venue à l'Évangile que ma vie a changé.
D'accord, on va parler maintenant de ce moment où tu as accepté Christ comme sauveur. Parce que dans toute cette pagaille, tu es chrétienne aujourd'hui. Oui. Donc, ça veut dire que dans toute cette pagaille, quelqu'un est venu te chercher.
Oui.
Alors, comment ça s'est passé?
Alors, celui qui est venu me chercher, je le dis déjà haut et fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Oui.
Parce que c'est lui seul qui a pu véritablement toucher mon cœur.
Oui. Mmh.
Mais en d'ailleurs, même quand mes frères qui ont accepté l'évangile avant moi me parlaient de Jésus, ma première fille, qui a été élevée avec l'un de mes frères, qui est chrétien. Donc, tout le temps, on me parlait de Jésus, mais malgré tout, il a fallu que le Seigneur même me parle, me touche mon cœur pour que je puisse... Oui.
Ça s'est passé en quelle occasion? Tu es allé dans une église? Alors, on t'a invité?
Je me souviens au mois de janvier, ma fille, elle revenait de la métropole. Et comme elle allait déjà au temple avec mon frère là-bas, et cette petite fille qui avait, elle devait avoir 8 ans, et elle tapait sous mes petites casseroles, et puis elle chantait des chants, et je me suis dit, mais Seigneur, mais si ma fille te connaît comme ça, mais pourquoi pas moi? Mais ça n'a pas pris, ça a pris quand même 3 ans, hein?
Oui.
3 ans, et un jour, une amie m'a invitée. Avant ça, j'ai fait une tentative de suicide, parce qu'une sœur m'avait déjà...
Hop là, oui. Hop là, on fait une petite parenthèse, il faut qu'on en parle, tu passes sur ça, vite comme ça. Je te dis une chose, hein, pour que tu puisses essayer de nous parler bien de ça, parce que c'est important. On était ici, on priait un soir, et on faisait une veille de prière à la radio, et on a été poussé à prier vers minuit et demi pour des personnes qui veulent se suicider. Et on a fini de prier, je ne me souviens pas vers quelle heure, et on a reçu un coup de fil à la radio, quelqu'un nous appelait de la Guyane française. Il a dit, monsieur, pendant que vous étiez en train de prier, j'étais en train d'attacher la corde au plafond pour me pendre. Et c'est comme pas, j'ai entendu la radio, et je suis descendu sur ma chaise. Ça remonte à quelques années. Hein. Donc, et personnellement, j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça par le suicide.
Oui.
Et tu m'en parles ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se dit, Seigneur mon Dieu, il n'y a plus de solution pour moi. La seule solution pour moi, c'est pas pour toi, c'est de passer une corde.
Alors, quand on n'a pas d'amis véritables, quand on n'a pas de fil conducteur, et on voit tout est noir.
Tout en noir.
Tout ce qu'on touche, tout ce qu'on dit, c'est du noir. Donc on se dit, on fait quoi sur la terre? Donc on n'a plus envie de vivre. Et j'ai fait 2 tentatives. Mais les deux, le Seigneur n'a pas permis. Alors, j'habitais au bord du Cos à l'époque. Et j'ai mis une chaise près de la fenêtre, parce que j'habitais à l'étage. Et je me suis dit, je veux me jeter par le bas. Et quand j'ai mis la chaise, je suis montée sur la chaise. La sonnerie de ma porte était au rez-de-chaussée. Mais j'entends la sonnerie de la porte... Mais pas dans mes oreilles, mais dans mon cœur.
Ah oui.
Et j'ai basculé à l'intérieur.
Ah oui.
Et là, je savais qu'il s'était passé quelque chose.
Tu entends une sonnerie dans ton cœur.
Voilà. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là, Simone? Tu as un problème, tu es devenue folle, tu vas laisser des enfants, pour qui? Et puis, mais malgré tout, comme rien ne marchait, quelques temps après, il y avait un épicier au bas. J'étais chercher de la rue Bigine. Je me suis dit, ben là, c'est fini. Moi, je veux plus vivre. Il y a trop de souffrance. J'ai traversé trop de choses douloureuses. J'ai personne à qui me confier. Je connaissais pas encore ces dames.
Monique et Anne-Marie.
Donc, il y a trop de choses. Ma grand-mère qui était ma maman, ben elle n'est plus non plus parce qu'elle était déjà décédée. Donc elle n'est plus, je n'ai plus personne. Alors là c'est non, j'ai plus le goût de vivre, je veux plus rien entendre et j'ai pris ces bouteilles et j'avais une quand même une copine d'enfance, on était au catéchisme. Elle était passée me voir. Mais le Seigneur fait les choses tellement merveilleuses quand elle est venue me voir. Mais je ne sais pas qui lui a dit qu'il va se passer quelque chose. Je suis entrée dans ma chambre. Dans cette chambre-là, j'avais ma salle de bain aussi. J'ai claqué la porte de la chambre. J'ai claqué la porte de la salle de bain. Elle a compris qu'il se passait quelque chose.
Oui.
Elle est venue dans la chambre. Elle ne m'a pas vue. Elle est venue dans la salle de bain. Elle me dit, Simone, ne fais pas ça. Pense à tes enfants. Oui.
Et quand tu allais boire vraiment ce produit.
Oui. Et quand elle me l'a dit ça, je suis entrée dans ma chambre. Elle a pris les bouteilles, elle a jeté. Je suis entrée dans la chambre. Et quand je suis entrée dans la chambre, mais il y a une sœur que je connaissais dans mon quartier qui m'avait offert une Bible. Et ça faisait des années, moi je n'ouvrais pas la Bible. Donc, et je me suis couchée sur le lit, j'ai dit, mais mon Dieu, il y a tout quoi exister, mais pourquoi je ne peux vivre ce état-là? Personne ne peut arrêter, puis moi, je n'ai pas envie stable, rien ne va, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, et pourquoi? Donc, c'est bon. Donc j'entends dans mon esprit, lis-moi.
Lis-moi.
Oui.
Oui.
Alors, je regarde la Bible. Je me dis, ah ben là, Simone, vraiment, ou peut-être toi à présent. En Bible, qu'elle va aller bon.
Ah ouais.
Donc, j'ai entendu ça une deuxième fois. Lis-moi. Quand j'ai entendu ça la deuxième fois, je me suis dit non. Alors, j'ai donné à la table de chevet mon dos. Je me suis retournée.
Je me dis,
comme c'est peut-être mon carreau, et puis ça ravine en dit dans tête moi. Donc, je me retourne.
Oui.
Et quand je me retourne, j'entends à nouveau, lis-moi. Alors, bon, timidement, me dit, bon, où les moi lire où? Eh bien, moi, lire où? Alors, je prends la Bible, j'ouvre. Quand j'ouvre, mais c'est comme si que je ne vais pas pouvoir vous dire ce que j'ai lu à l'époque, mais ça a remis de l'espoir dans mon cœur. Et c'est de là cette pensée n'est plus. Et je me suis dit, ben, je suis sortie du loyer. Le PAC a fait une petite maison près de chez ma maman. Je suis retournée sur le terrain familial. Et c'est alors qu'au mois de janvier, ça faisait à peu près 6 mois que j'étais dans la maison.
Six mois.
Et j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, Seigneur, je veux te connaître.
Oui, tu lui as posé la question.
Voilà.
Et ta fille était déjà convertie?
Ma fille était déjà convertie.
Tes frères déjà convertis?
Oui.
D'accord.
Mais il y avait tellement de il y avait des témoins de Jéhovah qui venaient à la maison. Il y avait des adventistes. Et je ne savais pas où aller. Mais je savais que ma fille qui chantait, mais je me disais, un enfant ne pouvait pas connaître Dieu.
Ah oui.
Et
cependant, c'était la réalité.
C'était une réalité. Et par la suite, on a été au carnaval avec elle, avec ma maman. Et elle a mis sa tête, quand on est arrivé sur Fort-de-France, elle a mis sa tête sous mes aisselles. Elle ne voulait rien voir. Même ma mère, à l'époque, elle était choquée. Elle dit, moi, Simone, la nidjal, donc, on est reparti avec elle.
Oui.
Et c'est alors...
Ta maman t'a dit ça?
Oui.
Elle n'était pas chrétienne, ta maman?
Ah, du tout. Du tout. Donc, c'est de là que j'ai fini par dire, ben, j'irai peut-être un jour au temple. Et j'ai dit à ma fille, maman te fait la promesse, un jour maman va t'emmener au temple. Et alors que j'arrive, alors que une amie Catherine me dit, Simone, il y a un serviteur qui prêche au Saint-Esprit dans une assemblée, viens. Donc, j'y vais avec elle, ce lundi-là. Et le monsieur en train de raconter ma vie.
D'accord, pendant sa prédication.
Pendant sa prédication.
Donc personne ne lui a rien dit.
Alors, donc je dis à Catherine, après, quand la réunion a pris fin, j'ai dit, Catherine, mais pourquoi que tu as été raconté ma vie à ce monsieur?
Ah. Je te dis après, vas-y, continue.
Oui. Pourquoi que tu as raconté? Pourquoi que tu lui as dit toute ma vie? Pourquoi que tu as fait ça, Catherine? Puisque tu connais ma vie. Elle me dit, non, Simone, j'ai rien dit. Alors, quand elle insiste avec moi, et moi, j'insiste. Alors, je lui dis, moi, eh ben, je ne viendrai plus dans vos affaires parce qu'il y a trop de mensonges, il y a trop de choses dans ça, moi, je ne viendrai pas.
Il y a trop d'hypocrisie, oui. D'autres semblants de menteurs.
Mais quand même, le mardi. Ah,
tu es retourné.
Je suis retourné. Et quand il a fait l'appel le mardi, j'ai dit oui, j'accepte Jésus. Ah oui, c'est Dieu qui révèle, Dieu connaît le cœur, la profondeur des cœurs, etc. Donc, j'ai accepté le mardi.
Le mardi d'y aller?
Le mardi. J'ai accepté le Seigneur le mardi dans ma vie aussi, quand il a fait l'appel. Et après, le jeudi, j'étais le mercredi. J'étais le jeudi, j'étais voir l'un des pasteurs et je lui ai dit, parce qu'il y avait baptême le samedi.
Oui.
Mais c'était pour ceux qui étaient déjà
morts, qui avaient déjà suivi, voilà.
Et le samedi, le jeudi, je vais le voir, je lui dis, pasteur, je veux me faire baptiser. Et il me regarde, il me dit, ma soeur, pourquoi que tu veux te faire baptiser, mais tu viens juste d'accepter. J'ai dit, je sais pas, mais je veux me faire baptiser. Il m'a dit, non, ça se passe pas comme ça, il faut faire les entretiens, etc. Et je persiste. Il me dit, mais il doit avoir quelque chose. J'ai dit, je sais pas, mais c'est question de vie ou de mort.
Ah oui.
Et je, moi non plus, je sais pas pourquoi, car à l'époque, je lui avais dit, c'est des années après, j'ai compris. Il me dit, bon, ben, d'accord, il a accepté.
Il a accepté?
Oui.
Parce que dans ce temps-là, on n'acceptait pas ce genre de choses-là. Il fallait faire des cours de baptême, peut-être attendre 6 mois, 8 mois, peut-être un an.
Oui.
C'est un miracle déjà.
Il a accepté et quand j'ai dit à mes frères que j'allais passer par les eaux du baptême, ils m'ont dit, mais non, Simone, tu peux pas faire ça, tu connais rien, et puis si tu retournes en arrière, tu peux pas faire ça. J'ai dit, vous avez perdu ça, autres, mais je vais me faire baptiser. Si vous voulez venir, venez, c'est à la française, vous venez, si vous n'êtes pas allé venir, mais me rébaptiser. Et c'est un cousin qui me dit, est-ce que tu connais l'histoire de l'eunuque? Moi, j'ai dit, hein, c'est quoi? Et il me parle de, pas l'eunuque, oui, quand il a été baptisé, Philippe l'a baptisé.
Oui, l'Éthiopien.
L'Éthiopien. Il était eunuque aussi quand même.
Oui.
Voilà. Donc, quand il m'a dit ça, ça m'a encouragé. J'ai dit, ok, si tu es une exception, ben moi c'est l'autre là. Alors, ben, j'accepte. Et puis, je suis passée par les eaux du baptême. Jusqu'à là, ça,
ça était,
oui, magnifique, magique, tout ce qu'on peut dire. Hein.
Ah oui.
Et puis, ben, là, on se réveille de la chose et on se dit, ah, ce que je pensais, mais finalement, c'est pas ça, parce qu'il y a eu des souffrances qui sont arrivées après. Des souffrances qui m'ont mise totalement par terre.
Parce que tu pensais que venir à l'évangile, c'est être exempt des problèmes, c'est une vie sans problème. C'est souvent ce qu'on dit aux gens.
C'est souvent ce qu'on dit aux gens, malheureusement.
On leur dit, venez, il n'y a pas de problème.
Voilà, et c'est pas vrai. Et là, c'est, ce que tu as quitté en arrière, tu es dans la réalité réelle.
Oui.
Tu vois toute ta puanteur, tu vois toutes tes souffrances qui reviennent, tu te sens mais encore plus sale que quand tu étais auparavant parce que tu ne
parce que tu es mise à nu, quoi. Tu es mise à nu, voilà, par la parole de Dieu.
Et c'est difficile. Et après, eh ben, tu te fais incendier parce que, je vais pas trop rentrer dans cette,
oui, vas-y, voilà. Pas de problème.
Je me suis vue rejetée de l'église.
Tu as connu le rejet.
Total. Et là, c'est vraiment difficile.
Mais tu as vécu, en fait, sans te couper, l'histoire du fils prodigue. Parce que quand il est revenu, c'est son frère qui l'a rejeté. Et souvent, lorsque on vient à l'église, parfois, malheureusement, on n'est pas... Mais ce sont des choses qui arrivent.
Et ça, c'est dur. Oui. C'était encore plus de souffrance que ce que moi j'avais vécu dans l'enfance.
Parce que tu ne comprenais pas.
Parce que tu comprends pas. Tu te dis, ce sont des enfants de Dieu. Mais comment que des enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, peuvent être aussi méchants?
Oui.
Donc, et toi-même, tu, comme tu n'es pas, tu as accepté Christ, mais tu n'es pas converti. tu n'es pas transformé, tu n'es pas changé. Donc, pour toi, dans ta tête, c'est que maintenant, pas ni personne qui est bon.
Tu es au début en plus.
Voilà, tout au début, même pas un mois.
Ça veut dire que si tu es là aujourd'hui, c'est l'effet de la grâce de Dieu.
C'est vraiment la grâce.
Si tu regardais aux hommes, tu ne serais pas là.
Ah, et je me suis, c'est là que j'ai compris pourquoi que le Seigneur m'avait dit question de vie ou de mort. Mm-hmm. Parce que si je n'étais pas passé par les eaux du baptême, je crois que je ne serais jamais venu à l'évangile. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'avais fait alliance, non pas avec un homme, mais avec Dieu lui-même.
Oui.
Donc je me suis dit, non, au moins là, t'as là, il faut me respecter.
Ouais, il y a des personnes comme ça qui respectent dès le départ.
Voilà. La,
même si elles sont jeunes dans la foi,
oui.
Comme c'était ton cas, tu étais quand même consciente que tu avais pris un engagement avec Dieu.
Avec Dieu. Donc je suis restée, j'étais dans d'autres assemblées. Et puis.
Une petite pause, Simone?
Non, ça va.
Non, c'est pour donner la parole à Monique et à Anne-Marie. À quel moment vous entrez en jeu, vous? À quel moment vous avez connu Simone? Anne-Marie, la grande timide, Anne-Marie.
Moi, j'ai connu Simone. Justement, je cherchais une église.
Oui.
Et puis, j'avais été visiter une église. Et puis, quand je revenais pour rentrer chez moi, j'ai eu un accident à Calbasim, Bermao. Et puis, il y avait un frère, justement, que je connaissais. Et puis, il y avait Nathalie. Et le frère a posé à Nathalie la question, mais c'est à quand je suis en l'église, mais pour tout pas qu'à diviner qu'à nous, en ce temps, c'était chez le pasteur Aducor, chez le pasteur Achille. Et puis, voilà, c'est là, le frère est venu m'aider dans l'accident, tout ça. Nathalie était avec moi. Et puis, le dimanche après, comme dit, comme fait, j'étais chez pasteur Achille à Ducos. Et c'est là que j'ai rencontré Monique et Simone.
D'accord.
Donc, on a.
Ça remonte à combien de temps?
Plus que 30 ans, quand même.
Vous avez 30 ans d'amitié.
Oui, plus que 30 ans.
C'est quand même rare de voir ça.
Très rare.
Et on ne pas dire inexistant.
Et elle habite à Ducos. Moi, j'habite le quartier du Chêneau-Lamantin. Monique habite au bout du Lamantin. Donc, c'est le Seigneur qui a permis ça.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, sans, quand vous me le disiez ouvertement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un fil conducteur qui vous a uni?
Oui.
C'est la souffrance, c'est dit comme ça.
Bon. Oui, tout à fait.
On ne va pas entrer dans les détails parce que.
Voilà.
Donc, toi, tu as connu par le biais d'un accident qui t'a mis en relation avec Simone.
Tout à fait. Et Monique.
Et ma soeur Monique. Notre technicien va couper le micro des autres parce qu'elle fait l'enseigne. Et ma soeur Monique.
Alors, j'étais à Ducos, dans l'église dont parle Anne-Marie. Et puis, un dimanche. Il y a des visiteurs et moi je suis assise là et deux personnes entrent. Non, une seule personne.
Voilà.
J'entends le bruit puisque c'est à l'étage et je me retourne, je vois quelqu'un qui arrive, une dame qui arrive avec sa jupe blanche, avec son petit haut rouge
bien,
et des escarpins
bien
blanches. Oui. Et je regarde.
Attends. Tu te souviens quel vêtement elle avait? Ça remonte à combien de temps?
Ça fait plus de 30 ans.
30 ans. Vous étiez des jeunes filles bien belles, bien en forme, bien coquettes.
Yes. Et je vois quelqu'un qui arrive avec ses escarpins blanches. Et bien évidemment, on l'a salué. Moi, je l'ai salué. Bonjour. Bon, à la fin du culte, on s'embrasse, on se fait la bise, on se reçoit, quoi.
Ah oui.
Et je vais vers elle. Et puis, je lui dis, tu as une église? Elle me dit, non. Je lui dis, alors viens ici, viens te réunir avec nous, je t'attends dimanche. Ah. Elle me dit, je ne sais pas encore. Elle me dit, oui, viens dimanche, viens là. Viens
ça,
dimanche.
Ça, c'est Monique, ça.
Et puis, je lui dis, je t'attends. Elle est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'elle a dimanche ou pas. Et j'insiste, viens dimanche. Ah. Et le dimanche suivant, jusqu'à aujourd'hui, on est réunis. On est ensemble depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. On ne s'est jamais quitté. J'ai vu une belle dame Chabine qui arrive. Je dis, ça c'est moi, mon cher.
30 ans.
Plus de 30 ans.
Ah oui.
Plus de 30 ans.
Donc, oui. Vous a, elle a commencé à vous parler un peu de son vécu, de son passé, de son passif.
Elle tout nous ça. A, d'abord, elle nous a parlé de son mariage bientôt. Elle devait se marier dans les jours suivants, enfin, moi où je ne me rappelle plus, suivant. Mais entre-temps, il y a le pasteur Achille qui faisait, qui organisait des agapes. Oui. Alors, je ne te raconte pas les fêtous de poulet, les algues rouges, machin. Anne-Marie était là. On est sortis ensemble. C'est-à-dire, on s'est réunis, on s'est chocolatés, on s'est réchauffés, et nos enfants ont grandi ensemble. Ils étaient petits, ils ont grandi comme des frères et des sœurs vrais, et ça nous a fait du bien. Et puis, j'ai découvert quelqu'un d'extraordinaire, qui avait beaucoup de combats.
Et puis, pour ceux qui n'ont pas, qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, le spectacle, c'est qu'elles ont toutes la même hauteur.
Oui, et puis nous avons tous des lunettes.
Ouais. Nous toutes les lunettes là, parce que nous quand on est grand.
Donc nous sommes tenus sans lunettes.
Et puis depuis vous êtes ensemble, inséparables.
Oui.
Et donc vous avez connu un peu son passé, Monique, vas-y.
Oui. J'ai beaucoup connu. Beaucoup vu.
Ah oui.
Oh oui.
A été compliqué.
Ah, c'était des drames.
Oui.
Je me demandais comment quelqu'un peut supporter ça. Oui. Comment un être humain peut-il supporter ça?
Oui.
Seule femme peut supporter des trucs comme ça.
D'accord.
Ah ouais, ça nous a un petit peu cassé.
Mais toi, quand tu vois quelqu'un porter de lourds fardeaux, souffrir comme ça, quelle est ton attitude envers cette personne-là? Est-ce que pour pitié, et puis après c'est fini, ou bien est-ce que tu pleures avec celle qui pleure? Est-ce que tu pries? Je sais que tu pries beaucoup.
Alors, c'est ce que tu viens de dire. J'ai beaucoup pleuré avec celle qui pleurait. On a mené des combats, c'est comme si c'était la guerre du Liban.
Du Vietnam,
mais quand
du
je
Liban,
te dis prier, c'est pas Alléluia, gloire à Dieu, béni sois-tu, éternel, béni là. C'était la guerre. Et ça a cassé un petit peu nos foyers parce qu'on s'est battu avec les esprits méchants, avec elle. On a mené des combats. Il y a des chrétiens qui disent, ah ouais, c'est la guerre, je suis combattant. Venez à sous-chanter, ouais, ça sous combattant. Et on a mené des guerres avec elle. On a été à côté d'elle, dans la détresse, dans les pleurs, dans les joies. Et je peux dire même qu'il y avait peu de joie.
Puis il y avait peu de joie.
Peu de joie.
Plutôt combat
et puis pleurer. Mais toujours
ce langage que tu tiens là, ce langage que tu tiens de combat spirituel, de combat de prière, j'entends plus ça de nos jours.
Malheureusement, parce que ça existe. Ça n'a pas disparu, le diable n'est pas converti.
Oui.
Ça existe. Et on était là, on était fidèles au poste.
Ah, oui.
Quand elle appelle, le téléphone n'est pas raccroché, qu'on est déjà arrivé à Ducos.
Oui.
Ah oui, ah, et oui. On s'est battu avec elle, à côté d'elle, etc. Quand elle ne savait pas prier, c'est nous qui priions.
Oui.
C'est nous qui prions.
Oui,
c'est nous qui étions là.
Oui.
Cajoler, les caresser, bénir les enfants, etc. Ça a été, je sais pas.
Et en même temps, vous avez vos foyers. On va pas entrer dans les détails pour vous. Vos foyers. Il y a des combats aussi dans vos foyers.
Exactement.
Vous avez vos enfants. Il y a des problèmes avec les enfants, mais en même temps, il y a quand même Simone qui est au milieu de là.
Il y avait pire. Oui.
Elle était plus jeune de la foi que vous.
Elle s'est convertie avant moi, on dirait, non? Moi, c'est 93.
D'accord. Et Anne-Marie, approche-toi du micro. D'accord. Toi aussi, tu es du style guerrière, comme Monique, c'est une guerrière. Hein? Mais toi, tu es du style. Tu essaies.
Oui. Quand le besoin se fait sentir, je me...
Quoi? Non, pas du tout. C'est bon, elle peut parler.
Oui. Quand le besoin se fait sentir, moi, je me mets au combat.
D'accord. Simone, tu as trouvé... deux personnes on va revenir avec Monique et Anne-Marie tout à l'heure. Tu as trouvé deux collaboratrices, même taille, même corpulence, peut-être que Monique était plus petite que l'autre, mais bon, même mentalité spirituelle.
Alors, j'ai pas trouvé collaboratrice, mais j'ai trouvé deux sœurs.
Deux sœurs, oui.
Ce sont mes sœurs. Vraiment, ce sont mes sœurs. Je ne pourrais pas dire c'est des collaboratrices.
Oui.
Collaboratrices, c'est... Voilà. Mais ce sont mes sœurs. Le Seigneur m'a donné deux sœurs. Une à droite, une à gauche.
Une à droite, c'est le cas là.
Ah, je ne veux pas dire. Je les aime.
Pousse.
Je les aime.
Oui.
Ce sont mes sœurs. Et mes enfants, ma famille, les respecte.
Oui.
mes frères, quand il reste un moment, pas de nouvelles. Simon, nous avons, c'est mon noir.
C'est mon noir.
Ben oui. Donc, oui, ce sont mes
sœurs. Est-ce que c'est important, Simone, oui, lorsqu'on traverse des moments comme ça, d'avoir des personnes comme ça autour de soi pour nous épauler, pour nous aider?
Oui, c'est plus qu'important. Parce que je me souviens, une époque de ma vie, j'étais revenue en arrière. Et quand j'ai eu toutes les difficultés et que je me suis dit, pas ni à un qui bon. Qui ou dehors, qui ou en dedans, ce sont les mêmes choses.
Oui.
Mais Monique, particulière, Monique.
Ah oui.
Un jour, elle est venue à la maison, j'étais pas là.
Monique, c'est un petit coup de là.
Et oui. Ah, vraiment. Et puis, il y a un petit coup de là, on dit dans l'autre. Donc, elle est venue à la maison avec. Elle a écrit sur un petit papier. Et je me suis dit, eh bien, pour de vrai, il y a du monde qui aime.
Ah oui.
Et ça m'a ramené sous les rails. Je me suis dit non. Au moins une personne. Et cette personne a fait la différence. Et je suis revenue. J'ai repris ma marche avec le Seigneur.
Donc tu étais sur le point de flancher, de laisser tomber.
Ah oui, oui.
Ah oui.
Oui, 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 oui. D'accord. Revenir dans ma vie passée. Puis,
D'accord. Par rapport à tout ce que tu as vécu dans ton enfance, dans ta vie d'adulte, des jeunes filles, des partenaires que tu as eus, est-ce qu'il y a eu besoin dans ta vie de délivrance?
Alors, normalement, oui.
Oui. Non, et c'est oui, normalement, mais normalement, oui.
Pourquoi que je dis normalement, oui?
Oui.
Ça doit automatiquement se faire.
Oui.
Mais on ne rencontre pas.
Oui.
Toujours. Parce que comme l'église, l'assemblée avait déjà mis une grosse tache sur moi, donc les serviteurs me fuyaient.
D'accord. Tu étais déjà renommé, tu avais déjà une réputation.
On m'avait même traité d'agent du diable.
D'accord, ok, quand même. C'est pas
donc, je n'ai pas trouvé la délivrance au milieu du peuple de Dieu.
Alors, si je comprends bien, quelque part, ça arrive, hein, on ne va pas nommer le nom de l'église, mais ça arrive qu'on peut penser que c'est une sorcière qui est arrivée, c'est une femme qui est venue là pour faire tomber les hommes de Dieu qui est là, il faut se méfier d'elle, et puis le bruit part comme ça, et puis...
Oui.
Oui.
Ça a été très... C'est cette partie-là qui...
Mais intérieurement, tu souffres de tout cela.
Ah, intérieurement, je souffrais. J'étais malheureuse. Et c'est pour cela que je bénis Dieu pour Monique et Anne-Marie.
Oui.
Qui ont pu me consoler bien souvent.
Ah oui.
Parce que quand tu n'as pas... Ma mère ne connaît pas. Mes frères qui sont à l'évangile ne sont pas plus prévenants.
Oui.
Donc, oui. Monique et Anne-Marie, oui. C'était un... Elles ont été des piliers dans ma vie.
Oui.
Et ça, quoi qu'il arrive...
Ce sera toujours ça.
Ça sera toujours.
Parce que depuis le temps que je vous connais.
Ah oui. Ouais.
Et vous
ouais.
êtes toujours ensemble. Donc on va avancer un peu. Donc finalement, tu continues. Tu as connu le mariage.
J'ai connu le mariage qui était compliqué.
C'était compliqué.
Très compliqué puisque n'étant pas délivré.
Oui.
Et mon époux non plus. À l'époque, lui non plus. Donc moi je pensais quand je me suis mariée, puisque j'étais avec quand même un homme marié quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai quitté un homme marié, puis je me suis dit cet homme, eh ben il est seul, il est bien,
il a l'évangile,
il est à l'évangile, il parle de Jésus, il connaît tous les références
bibliques.
Donc je
c'est
me
super.
Suis dit c'est super, c'est un ça il va être un papa pour mes enfants, donc pour moi wow,
super,
Dieu a répondu.
Ah oui.
Il est tellement important, bien aimé, de chercher vraiment Dieu. Donc, pour moi, cet homme-là, c'est Dieu qui l'envoie.
Oui. Mais quand je te regarde, apparemment, ce n'est pas le cas.
Là, je suis descendue dans un puits. Oui. Je suis entrée dans un puits que je ne peux pas sortir toute seule. Et là, c'est difficile.
C'est compliqué.
Là, c'est compliqué. J'avais que chez Monique, je partais.
Pour aller pleurer.
J'allais pleurer sur son canapé. Parce que tu comprends pas. J'ai vu tous les serviteurs que je pouvais voir, mais il y avait rien à faire. Et j'avais pas compris que moi-même, j'avais besoin de délivrance. J'avais pas compris que lui aussi, il avait besoin de délivrance. On s'embarquait dans le mariage. Sans peut-être... On nous a pas expliqué
ce que c'est que le mariage.
Je ne savais pas ce que c'était le mariage.
Et puis il y avait pas autant de connaissances que de nos jours.
Il y avait pas du tout. C'était
maintenant Internet, il y a tout.
Ah oui, c'est aujourd'hui.
Il y a le séminaire, il y a tout ça.
Voilà, mais c'était très 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 difficile. Les serviteurs ont prié pour nous, mais ça n'a pas fonctionné.
Oui.
Donc en 2007, oui, j'ai dit là, je me sépare. Parce que en 11 ans de mariage, j'ai pris 32 kilos.
32 kilos, ça veut dire que tu es devenue obèse.
Obèse.
Ah ouais.
Je faisais
c'est 100... le stress qui faisait ça.
Ouais, je faisais 118 kilos.
Ah, ah oui.
Donc je m'habillais. Ma robe blanche, baba cool, les cheveux pas coiffés, les vieilles sandales parce que je n'ai plus goût à la vie.
Attends, Monique va nous décrire, et alors ils vont nous décrire comment était Simone. Alors, technicien, tu vas couper le micro de Simone et tu vas ouvrir le micro de Monique. Monique, on t'écoute.
Bon, ça fait des années, c'est ouvert. Ça fait des années que je la connaissais déjà.
Mm-hmm.
Et j'ai vu quelqu'un dans ce mariage-là. J'ai vu... cette petite...
Pour fermer la porte d'entrée, 2 secondes. D'accord, vas-y. Vas-y, Monique.
J'ai vu ma soeur.
Mm-hmm.
Comme elle a dit, elle a pris des kilos. Alors, il y avait un morceau de tissu sur elle qu'elle appelait robe.
Un morceau de tissu.
Hein?
Un carré, quoi.
Hein?
En bâche.
Sa tête en ching-pong-tong.
Hein?
Et puis des sandales plat-tchak.
Délabré.
Sans vie. Sans éclat. Sans rien du tout. Elle ne se maquillait pas. Il fallait la voir. C'était... le désespoir personnifié.
Un fantôme.
Aïe, mon Dieu. Ah! Mais elle ne ressemblait à rien.
À rien.
À rien. Quelqu'un qui connaît Chris, qui a sa petite maison. Hein? Ah. Eh bien, il n'y avait rien. Il n'y avait plus de vie.
Ah, ouais.
Elle n'avait pas de vie. Avec tout ce qu'on lui disait. Bon, on était qu'à côté, quoi, pour passer la main les deux. Il dit, il n'y avait rien.
Ouais, ouais.
Elle était détruite.
D'accord.
Alors... Et je peux dire, ajouter quelque
chose? Vas-y.
Elle a tout fait, tu m'entends? Elle a tout fait pour sauver ce mariage. Madame Tala fait toute bagaille. Elle a du cran que j'ai pas.
Ouais.
Elle a tout fait pour sauver ce mariage.
Ouais. Ouais. Ça dit que j'ai reçu une jeune fille ici qui a connu des moments comme ça et qui m'a dit qu'après coup, après réflexion, après analyse, elle avait ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. C'est-à-dire qu'elle pensait vraiment sauver elle-même. Son mariage et sauver une personne. Et quand elle s'est rendue compte que c'est Christ qui sauve, et si la personne ne veut pas être sauvée, rien ne se fera. Reste avec nous, Anne-Marie, comment tu la voyais? Parce que Monique l'a vu comme ça, approche-toi du micro.
Elle faisait de la peine.
La peine?
La peine de la voir comme ça.
Elle donc, a grossi.
Elle avait grossi. Et puis, rien de la voir comme ça, ça nous peinait.
Ah,
oui. Donc, on était à côté d'elle pour l'encourager. Pour être là avec elle, et puis voilà quoi.
D'accord.
Mais c'était pas facile pour elle.
Elle était prise dans une situation, et puis en plus, comme elle avait déjà une réputation de femme tombeuse,
en plus.
Alors divorcer, c'est rajouter peut-être en l'air encore, n'est-ce pas, ma soeur Simone?
Oui, tout à fait.
Vas-y, ouvre le micro de Simone.
Tout à fait. Et puis, tu es tellement incomprise, tu es tellement rejetée. Que toi-même tu sais même pas comment raisonner. Tu sais même quand tu racontes ton histoire, tu penses que tu vas faire du bien, mais c'est encore des mépris. C'est la foudre que tu attires sur toi. Et tu te dis, mais mon Dieu, qui t'en bat et t'as fini. Donc en 2017,
tu as pris la décision.
J'ai pris la décision
radicale.
Oui, par contre, je n'ai jamais cherché à sauver.
Ah oui, oui,
mon mari. Ah ouais. Pour moi,
sauver ton mariage.
Mon mariage,
que Monique a dit.
Voilà.
Tu as essayé de sauver ton mariage.
Oui, parce que pour moi, tu...
Enfin, le mari.
Le mari.
Elle a tout fait pour son mari.
Ah, tout fait pour son mari. Voilà. D'accord. Okay.
Donc, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire les choses. Et puis, si la personne veut aussi. Parce que des fois...
La personne ne veut pas. C'est compliqué.
Très compliqué.
Il faut dire
que.
Il faut dire qu'on.
Très compliqué.
Faut dire que maintenant, Ton mari n'est plus de ce monde. Hein?
Non, il n'est plus là. Mmh. Il n'est plus là. Alors, on s'est séparés en 2017. Mmh. Et en 2010, je me suis levée d'un bond. Mmh. En 15 jours, j'ai dit que je pars en métropole. Je suis partie en métropole avec mes 3 enfants.
Et avec
j'ai
tes 108 kilos.
118 kilos.
118 kilos.
Ouais.
Tout ça, c'est parti en métropole.
Oui, tout ça est parti sous la métropole. J'ai tout vendu. J'ai remis voiture. J'ai dit, je ne reste pas mourir ici.
Ouais. C'est une question de vie de mort, là.
Ah oui. Donc, je suis partie.
Tu es très écoutée, Simone. Hein.
Nous,
je suis en train de regarder mon petit compteur. Ne rassure-toi.
D'accord. Donc, je suis partie. J'ai dit, je ne veux plus rien avoir en Martinique. Mmh. Dans ma famille, dans la chair, ça ne va pas. Mmh. Dans la famille spirituelle, ça ne va pas. Mmh. Eh bien, je vais perdre mes enfants, je vais mourir. Mmh. Donc, je pars sous la métropole. Mmh. Et d'un coup de tête, en moins de 15 jours, j'ai eu les passeports de mes enfants. J'ai tout vendu. Mmh. Et je suis partie sous la métropole. J'ai divorcé en 2012. Et puis depuis, eh bien, le Seigneur a restauré, a restauré, oui. a restauré.
Tu t'es retrouvée.
Je me suis retrouvée.
Alors, après tout ce que tu as vécu, Simone,
oui.
tu es restée chrétienne.
Oui.
Tu as eu des personnes pour te soutenir.
Oui. Mais j'ai compris que ben, c'est des histoires d'hommes, en fait. Mmh. Ce n'est pas Dieu. Parce que souvent, on en veut à Dieu.
Ah oui.
On pense que si Dieu existait, eh ben, il n'y aurait pas eu ça. Mmh. S'il y a la guerre, c'est à cause de Dieu. S'il y a des meurtres, c'est à cause de Dieu parce que Dieu ne fait pas. Non. Mmh. Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est l'être humain qui ne cherche pas justement du repos. Oui. C'est l'être humain qui
on accuse Dieu parfois, mais
voilà.
on s'en prend à Dieu même.
Or que Dieu n'a rien à voir. Mmh. Plus d'une fois, je me suis prise à Dieu.
Comment Dieu, tu m'entends pas, mon caprier, comme bah, on a rien ça. Regarde ce qui m'arrive alors que je prie beaucoup.
La fois que je me suis prise plus à Dieu, c'est la fois que mon fils a fait tentative de suicide.
Ah là, quand même, c'est.
Oui.
C'est pas facile. Et la mère.
Ah ouais, là, j'étais en colère.
Il avait quel âge, ton fils?
À l'époque, il devait avoir...
Simonique se rappelle ou Simone se rappelle? Anne-Marie se rappelle?
Oui, il a... Non, il n'avait pas encore vraiment 20 ans. Peut-être 19 ans, 18 ans, 19 ans.
Oui.
Ma belle-fille, sa...
Sa copine?
Son épouse. Parce que il... Oui, à l'époque, ils étaient copines. Mais il y avait déjà quand même la première fille. Non, il était déjà marié. Oui, il était déjà marié.
Il était déjà marié quand tu l'as fait ça?
Il s'est marié, il aurait eu 18 ans.
Ah oui.
Et il y avait déjà ma petite fille.
Il s'est marié à 17 ans?
Oui. Mes enfants, mes 3 premiers enfants, quand je me suis mariée, la souffrance a fait que mes enfants, ils sont partis tôt à la maison. Ils se sont mariés très jeunes.
Oui.
Mmh. Très, très jeunes.
Oui.
Donc, c'était pour fuir tout ce qu'il y avait.
Oui, oui, oui. Pour échapper de la maison.
Voilà. Mmh. Et un jour, j'avais ma fille, l'une de mes filles qui se faisait opérer du genou. Et là, on m'appelle pour me dire que mon fils s'est pendu dans la maison.
Il s'est pendu dans la maison?
Oui. Donc là, je n'ai pas compris. Ce jour-là, c'est... Je me suis disputée avec Dieu.
Ah oui.
Il y avait une dame dans ma voiture, une Guyanaise. Elle a eu peur.
Ah oui.
Parce que j'ai dit, mais mon Dieu, si tu n'entendais pas mes prières, mais au moins tous ceux qui ont prié pour mon fils, mm-hmm. comment tu as laissé mon fils partir? Tu sais que c'est en enfer qu'il ira.
Ah oui. Ah oui.
Comment tu as fait ça?
Ah oui.
Comment tu n'as pas entendu mes prières, mais tu aurais dû entendre les autres prières?
Ça, c'est comme Job, ça.
Ah oui, je me suis, mais vraiment, je me suis disputée, mais la Guyanaise, elle a eu peur. Mm-hmm. Donc, j'arrive à la maison de la mère et l'enfant. Je dépose la Guyanaise. Et là, j'entends dans mon esprit, s'il était mort, eh ben, il ne serait pas aux urgences.
D'accord. Donc, en fait, il n'était pas mort, alors. Il a essayé de se suicider.
Ah non, il s'est pendu. Hein.
Ah, il s'est pendu.
Il est un miraculeux.
Ah d'accord, ok.
Il s'est pendu. Parce que quand les pompiers sont arrivés, ben, il écumait, la langue sur les côtés.
Ah oui.
Les yeux...
À l'envers?
À l'envers. C'est sa femme qui a coupé la corde dans la maison.
D'accord, Monique, tu étais au courant de ça?
Ah si. Ah non, rien n'échappe à Monique.
Tu restes avec nous, Simone. On en a la parole à Monique. Monique, tu me disais?
Donc, oui, évidemment, on est sur la femme. Et
puis, il était pendu. Quand sa femme est arrivée à la maison, le garçon est pendu.
Oui.
Avec la corde. Elle a supporté son mari et elle a coupé la corde. Le garçon est tombé
sur le bébé.
Éponyment.
Ah oui.
Le temps d'appeler les pompiers, machin, pour l'emmener à l'hôpital du Lamantin. C'est un garçon mort et qui est arrivé à l'hôpital du Lamantin. Mais le temps qu'elle arrive à l'hôpital, Du Cos Lamantin. Tout je dis que Zavino a dit qu'il est mort. Il s'appelle Teddy.
Ah oui.
La commune de Ducos était
en ébullition.
Monde la blanc et monde parce que Teddy est mort. Je te laisse raconter la suite.
Donc je sors à la maison de la mère et l'enfant. J'arrive sur le parking de l'hôpital du Lamantin. Ben un monsieur, je sais pas où est-ce que le monsieur est sorti. Le monsieur a commencé à m'injurier. Le monsieur a commencé, mais limite, il m'aurait tabassé.
Ah oui.
Et moi, sous le coup de la colère, je le réponds.
Mm-hmm.
Parce que je vais voir mon fils, pour moi, c'est un fils mort.
Mm-hmm.
Et pendant que le monsieur est en train de me dire, et que moi je réponds, j'entends mon fils qui dit...
Vas-y, encourage. Enroule le tambour. Enroule mon tambour.
J'entends mon fils qui dit... Comment qu'il est bête, maman, moi, hein? Alors, je dis, Seigneur, il n'est pas mort. Et il enjambe le
bancard.
Le bureau. Il enjambe le bureau avec la Minerve dans le cou. Je vois le médecin, le chef de lui dire, non, monsieur Ismé, parce que normalement, sa colonne devait s'affaisser.
Oui.
Et qu'est-ce que ça, là, j'aimerais? Moi, maman, qui m'a battu, maman, là? Ah, mon Dieu, je me suis dit, Seigneur, eh bien, il n'est pas mort. Il est vivant. Mais, je ne sais même plus quoi dire. Et le monsieur me dit, madame, vous savez que votre fils, c'est un miraculeux. On n'a jamais vu ça.
Un escapé 100%.
Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas ni entier, gratitude, rien du tout. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et puis là, je rentre à la maison. Bien aimé, pas pour bon Dieu pour camarade. Hein. Bon Dieu, pas camarade, non, mais. Donc, je rentre à la maison. Je vais me coucher. Le Seigneur me laisse dormir. Et vers 3 heures du matin, je sens que ma vessie s'éclate.
Ta vessie s'éclate.
Alors, je vais aux toilettes. Mais tout en sommeillé. Et plus que je fais. Plus que j'ai envie de faire pipi.
Mm-hmm.
Donc, là, je suis bien réveillée. Le Seigneur m'a bien réveillée. Alors, j'arrive dans le couloir de ma maison et j'entends audiblement, femme insensée. Je me suis couchée par terre. Je me suis humiliée devant Dieu. Mm-hmm. J'ai dit, Seigneur, plus jamais. Je sais que ce Dieu-là, il entend. Notre Dieu entend. On ne peut pas dire n'importe quoi à Dieu. On ne peut pas agir n'importe comment devant Dieu.
Le Seigneur entend nos cris.
Oui.
Et là...
Et il m'a fait miséricorde parce que, sous le coup, il aurait pu... J'aurais pu mourir.
Ah oui.
Parce que quand j'ai entendu femme, insensée, waouh!
Ah oui.
Je tremblais comme une feuille de papier.
Mm-hmm.
Et tout le monde dans ma maison dormait.
Mm-hmm. C'est pas quelqu'un qui a dit ça, tu es certain.
Tout le monde dormait. Ils ne savent même pas que je me suis couché par terre. Sur le carrelage froid.
Oui. Et là, ta vie continue. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu te dis que tu arrives à un niveau où il n'y a plus de problème?
On est sur terre, pasteur. Sur...
Je sais bien.
On est sur terre.
On est à la radio FM Espoir.
Donc... Dis donc... Ce matin, je me disais, mais Seigneur,
il y a tellement de choses à dire.
Voilà. Est-ce qu'il y aura un petit moment de répit, un jour total?
Oui.
Mais je crois que c'est quand je vais partir, peut-être. J'ai des moments de repos hein, sur ce terrain, parce que Dieu a fait plein de belles choses, j'ai des temps de repos. Mais le repos final, c'est quand j'irai voir mon Seigneur.
Oui. Tu as déjà admis ça dans ta vie, que ce sera comme ça.
D'accord. Parce que tu peux rester un an, deux ans, tranquillou.
et bien ben, et puis était beau.
Boum, sans raison, sans son nez, sans comprendre.
Mais est-ce qu'on s'habitue avec des épreuves, des souffrances dans la vie? Ou est-ce qu'on se dit, Seigneur mon Dieu, bah, au pire qui ça, bon, on y va. Est-ce qu'on s'habitue avec ça?
Je ne crois pas, parce que ce ne sont pas les mêmes batailles.
Mm-hmm.
Si c'était toujours les mêmes choses, mais comme ce sont des batailles différentes, donc non, on ne s'habitue pas.
Mm-hmm.
On ne s'habitue pas. Si tu t'habitues, ça veut dire que tu es toujours resté dans les mêmes choses.
Mm-hmm.
Mais ce sont des batailles différentes. Là, on fait 10 pas ou avancer, ou avancer, ou avancer. Tu te dis, bon, ben c'est bon, tout est fini, tout est réglé. Là, c'est bon, c'est acté, c'est fait. Et puis, quelque chose d'autre, de différent arrive sur ta route.
Merci Simone. Donc, je vais me tourner vers Monique. Je te pose la même question. Après, c'est Anne-Marie. Anne-Marie va prendre son temps pour réfléchir. Donc, est-ce qu'on s'habitue de... Je pense que tu viendras ici pour témoigner un jour aussi. Est-ce qu'on s'habitue avec les épreuves et les combats de la vie? Est-ce
qu'on ne peut pas s'habituer avec des épreuves. Mmh, mmh. C'est-à-dire, comme Simone a dit, c'est des combats différents. La seule chose, c'est qu'avec les combats, on réajuste ses armes.
Mmh.
On se redresse avec le casque du salut, les chaussures, les armes. Et puis moi, j'ai appris à manier l'épée. Papa, on s'est venu des faces. Alors, je dis que moi, quand il y a un combat, ma kébé ça.
Oui.
Et puis, il m'a dit, même si m'en prend, mais mon sang que ça bat. Oui. Alors, on ne s'habitue pas. Mais on apprend à se battre. Au fur et à mesure, on apprend à se battre. Je te donne un seul... je te raconte un petit truc. Comme il faut beaucoup prier, etc. Mmh. Et un jour, je suis dans ma chambre pour me voir. Si je prie, il faut venir chez moi, qu'il n'y a personne.
Ah ouais.
Et je suis toute seule, donc. Et je suis dans ma chambre et je prie. Et il n'y a pas de vent, partout est fermé. J'entends que tout ce qui est dans ma cuisine se casse. Tout ce qu'a sur le moyen qu'a tombé. Blac, 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 blac. J'ai compris.
Mmh.
Et je suis dans la cuisine. Alors, j'ai avancé de quelques pas. Mm-hmm. Et puis j'ai dit, pas même quitter mon sorti là. Pas même quitter mon sorti là pour nous sortir à cailler moyen. Tu vois, on apprend à se battre. On est exercé dans le combat. On a tellement mené de combat qu'on est exercé. Point coup à pas faire, comme était Mercure. Mais on continue à se battre.
Oui.
On ne s'habitue pas au combat.
Ouais,
les combats sont différents.
Oui. Ouais. D'accord.
Mais si tu veux voir, excuse-moi,
vas-y.
Si tu veux voir si combat arrête, c'est quand c'est chez toi.
Ah oui.
Combat Yish, combat Marie, combat Bayou même.
Non, mais parce qu'il faut dire que pendant que tu aidais Simone et Anne-Marie aussi, tu les aidais, vous aidiez mutuellement, tu avais tes propres combats à mener.
J'avais beaucoup de combats, pas avec mes enfants, avec mon petit mari chéri, mais j'avais des combats. Oui, j'avais des combats. Ah.
D'accord, on a compris. Alors, je me tourne vers Anne-Marie. Pendant que tu mènes le combat, soutenir ta charmante sœur Simone,
mm-hmm.
tu as tes propres combats aussi.
Bien sûr, pasteur, c'est bon.
Oui,
et c'est ça n'a jamais manqué.
Oui.
Et c'est puis, combat sous combat.
Mais comment on fait pour s'extraire de ses propres combats? S'extraire, c'est beaucoup dire, mais faire fi de ses propres combats et pour penser à l'autre. Est-ce que c'est possible de faire ça?
Si, c'est possible.
Ah oui.
Parce que lorsqu'on aime quelqu'un,
ah oui.
Donc ça peut se faire.
D'accord.
Oui.
Et maintenant, vous toutes les trois là, vous êtes arrivés à quel niveau? Vous soutenez mutuellement? Vous connaissez vos combats?
Ah oui.
Vous soutenez mutuellement dans ces moments difficiles?
Oui, tout à fait. Quand j'ai un problème, je peux appeler Simone, appeler Monique. On se met en combat.
Oui.
On se supporte les uns les autres.
Et ça ne s'arrête pas.
Ça ne s'arrête pas.
Monique.
Et puis, Anne, pour compléter ce qu'Anne-Marie dit, il faut voir. Moi, mon téléphone n'est pas loin parce que j'ai un fils qui n'est pas à la maison.
Ah oui.
Alors, je laisse toujours mon téléphone à côté. Quand le téléphone sonne, c'est du Kosoubien, la chaîne. Quand je décroche le téléphone, je descends déjà du lit. Parce que moi, ça me sent comble. Je te dis le temps. Et moi, je suis très café.
Ah oui.
Quand je prends le sujet... le sujet de
prière.
Je dépose mon téléphone. Je vais prendre mon café que j'amène dans ma chambre, mon tout en glinglin, chemise de nuit, etc. Et on commence le combat.
Oui.
On n'a pas besoin de dire grand chose. Mm. On se met déjà au combat.
Oui.
Et puis nous cagoumes,
mais ça. On va vous dire, Nicolas Simone, mais quand vous parlez de combat spirituel de nos jours, là, à cette génération-là, quand vous regardez des jeunes devant vous, jeunes couples, jeunes ménages, quand vous parlez de combat spirituel, est-ce que vous sentez que vous parlez de la même chose?
Ah si, on comprend l'autre langage. Des fois, on n'a même pas le temps de dire mais on a déjà compris.
Non, mais je ne parle pas de vous, entre vous, hein. Je parle, est-ce que vous avez l'impression que, en face, la génération qui monte là, comprend ce que c'est que le combat spirituel?
Non, je ne pense pas, non.
Ah ouais.
Non.
Vas-y, vas-y, Monique, aussi.
Non. Avec la jeunesse là, mm-mm. Ah non, la jeunesse, c'est dans les petites chaussures, machin, machin, machin.
Voilà.
Quand on leur explique des trucs, eh bien, la jeunesse ne comprend pas.
Non.
Quand une fois, j'ai encouragé quelques personnes, parce que je suis passée par là.
Ah oui.
Le mari n'est pas un enfant.
Oui.
Le mari, c'est pas ton pote que tu prends, que tu lâches, c'est selon tes humeurs. Quoi dit, sort l'eau, quoi fait, sort l'eau, quoi, elle est pas douée, alléluia. Mm-hmm. Il n'y a pas alléluia là. Non, les premiers, c'est à quand il dit qu'il m'a mangé, pourquoi m'a et puis vous les menez, à quoi il dit ça, en code gay, en quoi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une manière de faire avec oui. l'homme de Dieu, ton mari. Il y a une manière, quand on dit ça, eh bien, la jeunesse ne comprend pas trop. Mm. Ah bon? Et moi, soutenez-moi. Ouais. T'es maman ou pas maillé, fille?
Exactement.
Radical.
C'est ça. Non, c'est exactement ce que Monique a décrit.
Alors, je reçois beaucoup de personnes à la radio, mais je dirais que, je vais dire ça comme ça. Je dirais que 90% que des gens que je reçois de la radio, au niveau du combat spirituel, hein, ce sont des femmes. 90%. Des gens que je reçois qui mènent le combat spirituel, 90% des gens qui mènent le combat spirituel, que je reçois à radio, sont des femmes. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que nous, hommes, peut-être que nous avons un problème, je ne sais pas. J'ai dit 90%. Hein. Quand on parle de prière, de jeûner, de personnes qui restent à la maison pour combattre, pour libérer, ce sont des femmes. Comment est-ce qu'on explique ça, Monique?
Nous, je ne sais pas, nous avons une autre vision des choses spirituelles. Tu n'as qu'à voir, je ne vais pas apprendre ça au pasteur, dans la Bible, il y avait beaucoup de femmes à côté de Jésus.
Oui,
hein,
oui.
Hein.
Ah.
Eh bien, je ne sais pas, je considère ça comme ça. Je vois que nous avons une autre vision des choses spirituelles. Nous sommes plus sensibles. Quand il y a quelque chose, quand le mari dira, mais non, c'est pas grave, etc. Nous avons déjà que nous allons faire une demi-heure dans la chambre à genoux, bien debout, avec l'épée. Nous sommes plus sensibles aux choses spirituelles. Et puis, maman, nous combégons. Nous toujours là qu'à chasser. Nous qu'à chasser, là, nous, quand ça parle, là, voilà, nous apprenons Bombay, nous a caché. On est déjà au combat.
Oui.
Même quand le mari est attaqué et atteint, il est blessé, il va rester là, je prends mon cas, il ne dit rien.
Ah oui.
Et moi, je me lève, tu n'as pas dit rien. Alors, comme tu dis rien, c'est moi qui pour le combat.
Oui.
Et ça a été comme ça. Je crois que les.
Mais est-ce que c'est pas un don, est-ce que c'est pas un talent que Dieu met
en... Je sais pas, cette fibre. On ouais. a, je suis pas savant, fibre, Guillaume. Je sais pas.
Que c'est quelque chose que Dieu.
À la brèche, des femmes à la brèche.
Ouais.
Les femmes sont plus
souvent
à la brèche que les hommes.
Je pense que cela à la femme.
Voilà.
Parce que s'il n'y avait pas ça, ouais. pas sûr, sur bon. Pas de mon nom la terre. Parce que, voilà, même les assemblées aussi, parce que je me dis, quand je regarde, même le dimanche, quand on va regarder, ben, il y a plus de femmes dans les assemblées que des messieurs.
Mais en semaine aussi.
Et,
en semaine, c'est encore pire. Encore pire en semaine, il n'y a que des femmes dans les assemblées. Attention, parce que dans le Nord, il y a certaines églises qui ont fermé en semaine. Parce qu'il n'y a plus personne dans les églises en semaine. Les gens viennent au culte le dimanche. Et encore plus de femmes de jour.
Oui.
Parce que les hommes parfois ne viennent même pas le dimanche. Je dis pas ça parce que j'en critique les hommes, hein. C'est une
oui.
réalité qu'on
Mais
voit.
C'est une réalité.
Je parle beaucoup
Et
avec.
Je peux même donner une petite anecdote. Quand j'étais mariée, j'ai eu l'une de mes filles qui avait des attaques spirituelles.
Mmh.
Elle était bébé. Et elle a fait 6 jours à 41 de fièvre.
Oui.
Elle est hospitalisée. Et quand elle est rentrée à la maison, on m'a dit qu'il y a, ben on ne trouve rien. Deux serviteurs sont venus prier à la maison. Eh bien, mon époux ne pouvait même pas tenir.
D'accord.
Il s'est endormi.
Il s'est endormi.
Et le serviteur, il lui a dit, Fouettel, va te coucher. Et on a mené la bataille, nous trois, les deux serviteurs et moi, toute la nuit, jusqu'à 6 heures du matin, il dormait toujours.
Mm-hmm.
Et son enfant est en train de mourir.
Ah d'accord, ok. Et lui, il dort.
Et lui, il dort.
D'accord, ok. Ben, c'est, on va dire que c'est vraiment une singularité de la femme, une particularité que Dieu a mis dans la femme. Et,
tout à fait.
Et, parce que souvent, quand on parle de chrétiens qui intercesseurs, c'est souvent des femmes.
Mm-hmm.
C'est rare de voir des intercesseurs hommes. Oh. je n'en connais pas, en fait. Je ne connais pas d'intercesseur homme. Je connais une intercesseuse, mais pas d'intercesseur.
Et on n'a pas peur.
Ah, oui.
Nous, pas capons. On n'a pas peur. Non, quand que on ce soit leur combat, parce que c'est aussi bon, que ce soit leur combat, on considère, aïe, 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 mais on y a.
Mais oui,
nous
tu vas.
Aller. Mm-hmm. On va, moi, je te donne une anecdote. Nous sommes dans une église, et puis un jour, il y avait un jeune, le pasteur a décrété un jeune, etc. Nous, toutes là, monsieur Bon, nous avons crasé Kaila. Le pasteur est obligé de dire, les frères, les hommes, mesdames, taisez-vous. Les hommes, on va chanter un petit truc que tout le monde connaît. Mm. Moi, je peux prendre du sommeil. Et c'est, bon, la gasse, c'est un homme là. Excusez, c'est des hommes.
Oui.
La gasse, c'est un homme là. À point si vous attendez les hommes. C'est pas pour les mépriser, mais c'est comme ça que ça s'est passé.
Oui.
Quand les hommes se sont tués, et puis il a dit, vous les femmes, maman, j'ai fait pris la gondo.
C'était autre chose. Bon, ben, les hommes, vous avez entendu. Hein,
c'est pas pour les mépriser.
Non, il nous reste à nous réveiller.
Oui, il faut.
Non, mais je vis cette réalité. Je ne peux pas dire que c'est pas vrai, puisque je vis cette réalité. Et si je convoque une réunion de prière là, plus de la moitié, ça va être des femmes qui sont dans la salle. Et comme j'ai dit, en semaine, dans les églises, c'est que des femmes.
Et malheureusement, on ne voit pas, les hommes, malheureusement, ne voient pas l'importance de s'impliquer, parce que quand on a des fils, quel exemple que ces fils-là ont? Il n'y a pas d'exemple. Parce que on te dit que l'enfant doit, le fils ressemble à son papa, mais peut-être au niveau du travail, au niveau des biens matériels, mais spirituellement,
non. Il faut assurer. Ça fait pas sur le foyer pareil. En tout cas, merci beaucoup, parce qu'on est déjà arrivé au timing précis, une heure et demie ensemble, je crois. En tout cas, merci beaucoup à Monique, merci beaucoup à Simone, merci beaucoup à Anne-Marie.